Et voilà, c'est maintenant. Je vous partage ce que j'ai préparé et ma prière. Et comme l'a dit Sébastien, eh bien qu'elle puisse vous nourrir comme elle m'a nourri moi en la préparant. Et il y a quelques semaines, Anaëlle, qui doit tout foutre sale aujourd'hui, que je n'ai pas vu, en présidant, en conduisant la Sainte-Seine, a cité une partie d'un verset qui est « Choisis la vie ». Et vous savez, parfois, il y a des paroles comme ça qui nous... Voilà, qui nous percute, qui nous touche. Et c'est une parole qui m'a touché, choisi la vie. Parce que je trouvais que c'était un beau programme, c'est presque un beau slogan de campagne d'évangélisation, choisi la vie, une belle ligne de conduite, choisi la vie. Et ce passage, donc cet extrait de verset, choisi la vie, est tiré de Deutéronome, qui est un livre au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, et plus précisément, comme c'est écrit là, Deutéronome 30, à partir du verset 11 à 20, et c'est le passage que nous allons lire ce matin en support de ma prédication. Deutéronome 30, versets 11 à 20. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il est dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel ?» afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour qu'ils te disent « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique ?» Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant par le Jourdain, en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de te donner ou de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et on retrouve ici ce passage à la fin de la vie de Moïse, qui est un passage similaire à celui que j'ai pris il y a deux semaines en présidence, mais peu importe. On arrive à la fin de la vie de Moïse, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, a passé 40 ans dans le désert et s'apprête à traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et c'est à ce moment-là où on retrouve ce passage. Et si je considère que choisir la vie, eh bien, signifie me rapprocher de Dieu, hein, qui est une décision... par opposition, je vais me refaire. Genre, si je considère, voilà, je lisais une ligne et j'en disais une autre, ce qui n'est pas facile, mais moi j'y arrive pas. Donc je disais que si je considère que choisir la vie est bien me rapprocher de Dieu, eh bien par opposition, je peux considérer que ne pas choisir la vie est de m'éloigner de Dieu. Et je trouve que c'est justement une question évidemment fondamentale. Alors bien sûr, il y a des grandes décisions de ma vie, telles que la conversion par exemple, où là clairement, eh bien, je vais choisir la vie plus que choisir la mort. Mais il y a aussi bien sûr les décisions que je peux prendre au quotidien, vous savez, les petites décisions du quotidien, la manière dont je me comporte, ce que je regarde à la télévision, ce que je lis, etc. Eh bien, toutes ces décisions-là me ramènent aussi à choisir la vie ou ne pas choisir la vie, à me rapprocher de Dieu ou à m'éloigner de Dieu. Et par ce texte, eh bien, Dieu encourage les Hébreux à se rapprocher de Dieu. Et ce qui est vrai, eh bien, pour le peuple des Hébreux est vrai aussi pour nous, hommes et femmes de 2013. Et lorsque j'ai en tête un sujet de prédication dans la semaine qui précède, eh bien, je suis particulièrement attentif aux exemples, aux anecdotes, aux illustrations qui peuvent me servir justement pour après illustrer ce que je vais dire ce matin devant vous. Et en début de semaine, cette semaine, eh bien, je partage ma foi avec une consoeur, consultante. Et voilà, je lui dis que je suis protestant et elle me dit « Ah ben tiens, d'accord, et est-ce que tes enfants vont à l'école du dimanche ?» Et ce qui m'a étonné, c'est le terme « école du dimanche », parce que c'est quand même un langage d'initié, hein, « école du dimanche ». On parle plutôt de catéchisme, qui est le langage plus courant, le vocabulaire catholique qui est un peu plus connu. Et je lui dis, mais dis donc, tiens, tu connais École du Dimanche ? Il me dit, oui, écoute, on a un ami qui est fils de pasteur. On a regardé un petit peu. Et puis finalement, avec mon mari, on a choisi un autre engagement qui était de nous engager à Amnesty International. Voilà, c'est un choix. Et autre scène, toujours cette même semaine, j'ai vécu une semaine incroyable. Tu vois. Cette même semaine, à la fin de la semaine, j'animais une formation et puis un participant dans le groupe qui nous partage qu'il est de confession juive. Et puis à la pause, je vais le voir et puis je lui montre les parallèles entre le comportement de Moïse au moment où Dieu l'a appelé et le management, qui est le thème que j'étais en train d'animer. Alors, ça l'étonne un petit peu. Et puis, là aussi, de fil en aiguille, je lui dis que je suis protestant. Il me dit, ah bah, moi aussi. Comment ça? Oui, mon père est juif et ma mère protestante. Mais voilà, finalement, je me considère plus juif. Mais j'ai choisi un autre engagement. Bon, oui, j'ai choisi la franc-maçonnerie. D'accord. Et vous voyez, dans ces deux exemples-là, sur une semaine, eh bien, voilà, ça a illustré le fait qu'il y a des moments où je fais des grands choix comme ça, des choix d'itinéraire. Alors, j'en étais conscient avant de rencontrer ces deux personnes. Mais quand même, quel impact que ces choix de vie, justement. Je me rapproche de Dieu ou je m'éloigne de Dieu. Et tout ça m'a dit que voilà, c'était un bon sujet de réflexion à vous partager ce matin. Alors, je vous propose de réfléchir à cette question en trois points. D'abord, se poser la question, ce que ça veut dire, ce qu'est choisir la vie. Et puis ensuite, pourquoi choisir la vie ? Et enfin, dernier point, voilà, comment choisir la vie ? Alors, premier point, que signifie choisir la vie ? Et c'est vrai qu'on peut prendre cette expression de différentes manières, choisir la vie. On peut l'entendre, choisis la vie que tu as envie de mener. Ou choisis la vie dans le sens, profite des plaisirs de la vie. C'est aussi un sens qu'on pourrait mettre derrière. Bien sûr, la définition de la Bible est autre et est très claire sur ce que veut dire « choisis la vie ». Et on le voit au verset 6, qui est un verset qui est un petit peu avant le passage que l'on a lu. Verset 6 de Deutéronome 30. « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives ». Et puis on retrouve cette même idée un petit peu plus loin, là, cette fois-ci dans le texte que l'on a lu, au verset 16, ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse. Vous voyez, choisir la vie, c'est aimer Dieu. Et on peut se poser là aussi la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel lien ? En quoi d'aimer le Seigneur nous fait choisir la vie ? Et je crois qu'on peut faire une réponse à deux niveaux. Il y a deux semaines, quand je présidais le culte, eh bien, j'avais dit que le Seigneur donnait le souffle de vie. Et c'est particulièrement mis en avant au moment de la création, quand le Seigneur crée les êtres vivants, quand il crée Adam, où on voit eh bien, qu'à partir de la poussière de la terre, par son souffle de vie, le Seigneur donne la vie à Adam. On peut lire ça dans Genèse 2 au verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et ça, c'est vrai pour chacun des êtres vivants. Et c'est le récit de la création que l'on peut lire dans les premières pages de la Bible. Dieu est le créateur de toute vie. Donc quand la Bible dit « choisis la vie », on pourrait entendre « choisis le parti de la vie », si je puis dire, parce que Dieu s'y connaît en vie. C'est lui qui l'a créé, c'est un expert de vie. Le principe de vie, eh bien, c'est Dieu qui l'a institué, qui l'a inventé, si je puis dire. Et lorsque je pense à la vie, je pense effectivement à la création, à la croissance, à la beauté, au merveilleux et aussi au mystère. C'est quand même quelque chose de, bien sûr, magique à partir de particules inertes comme le carbone dont je suis constitué. Eh bien, paf, on fait un être vivant avec une conscience, avec une pensée. Enfin, on oublie sans doute ces merveilles-là. Dieu, Seigneur, créateur de vie, principe de vie. Choisir la vie, eh bien, c'est de se mettre du côté du créateur, de mon créateur. Et j'aime Dieu parce qu'il est le créateur. Et cela me rappelle la puissance, sa puissance. Et si je considère Dieu comme mon créateur, comme le dit la Bible, eh bien, quelque part, c'est normal que je cherche à avoir une relation avec lui. Et choisir la vie, eh bien, c'est rechercher ce lien avec mon créateur. C'est de me rapprocher de Dieu. Et dans la Bible, il y a une autre dimension à l'idée de vie au sens de la création. C'est la vie éternelle. Et lorsque l'on aime le Seigneur, il nous donne son souffle de vie, comme je l'ai dit, mais ce souffle eh bien, conduit à la vie éternelle. Juste un verset en illustration de cette idée de vie éternelle, la Bible en fourmi, mais j'en ai choisi un, dans Jean 17, verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et tout se passe comme si, au fond, il y avait deux dimensions à la vie. Dieu créateur, principe de vie, qui transforme la poussière en être vivant, qui donne son souffle de vie à Adam, hein, pour que, voilà, il devienne vivant, comme je l'ai dit, premier niveau. Et deuxième niveau de la vie, Dieu qui insuffle son esprit de vie éternelle. Et nous pourrions dire « choisis la vie », et nous pourrions dire donc « choisis la vie éternelle ». Voilà ce que je voulais définir, déjà avant de se poser la question de pourquoi choisir la vie. Et je crois qu'au cours de notre vie terrestre, nous n'avons qu'une vue partielle de notre situation. Et je pense que nous ne rendons pas pleinement compte de ce que signifie de ne pas choisir la vie. Hein, nous n'avons aucune vue terrestre de notre vie. Et c'est bien normal, hein, évidemment. Mais si l'on se place d'un point de vue de l'éternité, c'est-à-dire notre vie terrestre plus ce qui se passe après notre mort, ne pas choisir la vie, c'est justement choisir la mort. Et ce qui n'est pas forcément facile à comprendre, parce que le terme de mort, eh bien, renvoie à deux réalités différentes. Il y a bien sûr la mort physique de notre corps, hein, que tout le monde connaîtra, qui est vrai pour tout le monde. Et puis, deuxième niveau, la mort que l'on peut qualifier de spirituelle, qui est d'être définitivement séparé de l'amour de Dieu. Voilà. Et pour ça, je vais livrer une expérience. La première fois que je le fais, je vais vous montrer un extrait de film. Ça va bien se passer, c'est ni dangereux ni douloureux. Ma question est juste la technique, voir si ça fonctionne. Voilà. Vous reconnaîtrez peut-être cet extrait, sans doute d'ailleurs.
Ici Houston.
Je vous écoute, Houston.
Mission avortée, je répète, mission avortée.
Explorer, ici Kowalski, je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un satellite russe. Je répète,
Ici Dr. Stone, je demande un retour anticipé.
Il faut partir, on y va.
Les conditions météorologiques du Cap Kennedy sont défavorables.
Houston, ici Explorer, répondez. Je demande un retour anticipé vers la soute. Explorer, vous recevez...
Explorer, autorisation de récupérer le Dr. Stone.
Affirmative, Kowalski. Houston, ici Explorer, répondez.
Ok.
On a perdu Houston.
Faut vraiment qu'on dégage, maintenant.
Vous voulez un coup de main, vous deux?
Non, nous attendons pas.
C'est coincé.
Un homme est touché.
Houston,
un homme est touché.
Houston, ici Explorer, répondez.
Explorer est touché. Astronaute hors structure, le Dr Stone est hors structure. Dr Stone, détachez-vous.
Non.
Détachez-vous, si vous ne vous détachez pas,
je
le bras
pas.
Va vous emporter trop loin. Écoutez ma voix, concentrez-vous.
Je
ne vous localise plus. Je ne vous vois plus, détachez-vous.
Je sais.
Mais quel rapport? Quel rapport? Déjà, je suis content que ça ait marché. Oui, quel rapport? Je disais juste avant cet extrait-là qu'on a sans doute qu'une vue partielle et on n'a pas une vue globale de notre vie et notamment la vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe après? Et je crois que nous sommes un peu parfois comme ces astronautes au fond, où on mène nos petites occupations, enfin petites sans dénigrer quoi que ce soit, mais notre activité, notre travail, nos engagements sociaux, et on se rend pas compte de la suite d'après, qu'est-ce qui va se passer après. Et si je me place effectivement dans la perspective de l'éternité, si je reprends l'astronaute, eh bien, les choses risquent de se gâter violemment la suite. Alors, je ne veux pas dramatiser, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment une représentation de ce qui se passe après notre mort ? Non, bien sûr que non. Et je crois qu'on risque on va vivre cette solitude. Et c'est pour ça que j'ai mis cet extrait-là avec cet astronaute qui est coupé de tout. Et parfois, on vit justement sans se rendre compte que nous sommes pas reliés à Dieu. Voilà. Et quelle que soit la taille ensuite ici de la météorite ou d'autres débris qui explosent les astronautes, si je puis dire, eh bien, voilà. Quelle est notre situation ? Est-ce que nous ne sommes pas justement à vivre dans cette solitude-là, ou nous sommes-nous reliés justement à Dieu d'un lien qui ne peut pas être détruit ? Voilà. C'est un peu ce que je voulais illustrer par cette idée-là. Et cette séparation avec Dieu, la mort spirituelle, encore une fois, n'est pas forcément facile à comprendre. Mais la situation du peuple d'Israël, que l'on a vu ici, avant de traverser le Jourdain pour rejoindre la terre promise, peut nous éclairer. Et ici, dans le passage que nous avons lu, le peuple d'Israël va entrer dans la terre promise. Et le Seigneur prévient les Israélites que s'ils ne lui obéissent pas, ils disparaîtront et ne prendront pas possession de la terre. Qu'ils ne rencontreront pas les bénédictions, mais des malédictions. Et pire encore, eh bien qu'ils rencontreront la mort. Et je crois qu'on peut établir une correspondance entre le peuple d'Israël et notre situation à nous aujourd'hui. Le peuple dans le désert qui va traverser justement le Jourdain pour rejoindre la terre promise. Notre vie terrestre correspond en quelque sorte à la vie du peuple dans le désert. La mort physique correspond à la traversée du Jourdain. Et qu'allons-nous rencontrer après cette traversée, après notre mort physique ? Est-ce qu'on va rencontrer la vie ou on va rencontrer la mort, c'est-à-dire être séparé de Dieu ? Choisir la vie, c'est choisir la vie éternelle qui commence dès que l'on décide de se convertir, de donner son cœur à Dieu, d'aimer Dieu et d'accepter de se laisser aimer par lui. Choisir la mort, alors c'est curieux de dire ça, mais on préfère dire choisir la vie, mais ne pas choisir la vie, mais choisir la mort, hein, c'est de se couper définitivement de l'amour de Dieu, comme l'astronaute qui se trouvait seul, hein, et coupé de tout. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous encourage à choisir la vie. Mais quand je dis encourage, c'est pas ce que dit le texte, hein, il dit, c'est le verbe ordonner qui est utilisé. Le Seigneur nous ordonne de l'aimer de tout notre cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, choisir la vie, eh bien, c'est aimer Dieu, c'est établir avec Dieu un lien d'amour. Et ce lien d'amour, comme je l'ai dit, est indestructible. Alors, il y a un verset qu'on utilise souvent, qu'on lit souvent, mais qui est tellement important quand on connaît un peu la Bible, dans Romains 8, verset 39. « Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et quelle que soit la taille de la météorite, j'ai envie de dire, si je file la métaphore là, avec les astronautes, quelle que soit la taille de la météorite, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Sauf si, effectivement, on décide de ne pas faire le choix de s'accrocher, hein, ou de se décrocher, comme l'a fait l'astronaute. Choisir la vie, hein, c'est obéir à Dieu. Et c'est souvent là que ça coince. La première personne dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, celle qui s'est engagée pour Amnesty International, me disait que si elle devait choisir entre catholique et protestant, elle choisirait plutôt protestant. Okay. Et elle me disait ça un peu comme si, vous savez, si c'était à refaire au collège, en deuxième langue, entre allemand et espagnol, je choisirais plutôt espagnol. Et je lui dis, ok, d'accord, mais pourquoi protestant ? Eh bien, parce que les protestants, ils sont moins... Ouais, puis elle fait ce geste-là. Alors, je suis content de savoir que je suis moins... Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire dans sa représentation ? Et dans sa représentation, en fait, c'est... Ouais, c'est l'air plus cool, quoi. Ouais, c'est ça, je choisirais espagnol, en fait, plus que l'allemand. Hein ? Quelle représentation les personnes qui nous entourent, on peut avoir, justement, de la foi ? L'obéissance, eh bien, c'est quelque chose de difficile. Et moi, me soumettre à Dieu, moi, me soumettre à la loi de Dieu, mais enfin, n'y pensez pas, quoi. Difficile, parfois, de se remettre en cause et de se soumettre, justement. Et bien souvent, nous voudrions les bénédictions sans obéissance. Mais pourquoi le Seigneur a mis les deux, bénédiction et malédiction ? Pourquoi il n'y a pas qu'un seul chemin, au fond ? Pourquoi il n'y a pas que des bénédictions ? Ce serait beaucoup plus facile, on n'aurait pas de questions à se poser, juste à suivre le chemin. Sauf que l'obéissance fait partie de la relation que le Seigneur a instituée, et cela dès la création. Ça, c'est un tableau de Marc Chagall sur le jardin d'Éden, de la création. L'obéissance fait partie du principe que le Seigneur a posé dès le début, dès la création de l'homme. Et cela renvoie au principe d'autorité, obéissance, autorité. Ça va évidemment de pair. Même dans le jardin d'Éden, au début de la création de l'homme, eh bien Adam et Ève avaient le choix entre l'obéissance et la désobéissance. Le Seigneur Dieu a placé l'arbre, les arbres de vie et de la connaissance au milieu du jardin et leur avait interdit d'y toucher. Là aussi, l'homme avait le choix entre l'obéissance et la désobéissance, et il a choisi la désobéissance. Et en fait, le choix que nous avons à faire ne se situe pas tellement entre bénédiction ou malédiction, entre vie et mort, mais est-ce que je choisis d'obéir à Dieu ? C'est ça, c'est moins agréable, effectivement, à entendre. Finalement, nous aussi, on est peut-être comme ça, comme disait ma consoeur. Et j'ai le choix. Dieu m'a donné le choix de choisir le chemin. Parce qu'il nous a créés responsables, intelligents, dotés d'une conscience. Et Dieu attend de nous que nous fassions le choix de l'obéissance, que ce soit une démarche consciente. Et on ne peut pas aimer ou être aimé sous la contrainte. Et Dieu attend de nous que l'on fasse le choix de l'aimer. Et c'est parce que j'aime le Seigneur que je lui obéis. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou pour toute autre mauvaise raison que j'obéis au Seigneur. J'obéis au Seigneur parce que je l'aime et je sais qu'il m'aime. C'est parce que je veux faire partie du peuple d'adorateurs dont parlait Jean-Marc la semaine dernière. Et le lien qui unit l'homme à Dieu est bien sûr le lien de l'esprit, mais c'est aussi un lien d'amour. Et c'est quand même incroyable de savoir que le lien qui nous relie à Dieu est son esprit, bien sûr, mais ce lien d'amour. L'amour qui nous met en communion avec Dieu, du fait que nous raisonnions à l'unisson avec lui. Ça pourrait être un lien de soumission, un lien de dépendance, ce qui est vrai, mais c'est d'abord un lien d'amour. Alors ça ne veut pas dire que la soumission ou la dépendance ne sont pas là, mais d'abord, c'est un lien d'amour. Et j'aime le Seigneur parce qu'il m'aime, et il m'aime d'un amour parfait. Et c'est la raison pour laquelle je lui suis soumis. Et c'est la raison pour laquelle je décide de lui obéir. Et c'est de cette façon que les choses sont présentées au verset 16. J'aime le Seigneur, donc je lui obéis. Et obéir au Seigneur me permet de profiter pleinement du lien d'amour qu'il a entre lui et moi. Alors, est-ce que je choisis d'être relié à Dieu ou je décide de mener ma vie seule en m'éloignant justement de Dieu ? Et le texte nous encourage à choisir la vie. Alors, comment faire maintenant ? Troisième partie. Et je vous propose de relire la première partie du texte que l'on a lu, des versets 11 à 14. C'est un beau passage. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu te dises « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre ?» pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu te dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ?» Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il est dans ta bouche, il est dans ton cœur. Pas besoin de monter au ciel, comme les astronautes justement, ou de traverser les océans pour accéder à ce commandement. Ce commandement qui est justement d'aimer notre Dieu. Il est dans ta bouche, il est dans notre bouche, il est dans notre cœur. Alors bien sûr, ce texte, cette histoire s'adresse d'abord aux Hébreux qui, eux, connaissaient parfaitement bien la loi, mais cette parole s'adresse aussi à nous. Et si je considère que le Seigneur est bien le créateur de toute vie, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut considérer que ce commandement-là, d'aimer le Seigneur, eh bien, il l'a placé aussi dans notre cœur lorsqu'il nous a créés. Et ce principe de vie qui consiste à aimer Dieu, eh bien, nous l'avons aussi dans notre cœur. Et ce commandement-là, il nous l'a placé dans notre cœur parce que nous en avons fondamentalement besoin. Nous sommes conçus comme ça, nous sommes faits pour ça. Mais le péché, nos mauvais choix, les choix de nous éloigner de Dieu, eh bien, sont venus étouffer ce commandement et nous ne l'entendons plus dans nos cœurs. Et pourtant, ce besoin d'aimer notre Dieu, d'être aimé par lui, existe toujours. Et Christ est venu pour combler justement ce besoin, pour nettoyer le péché qui nous empêche d'entendre ce commandement d'aimer notre Seigneur. Et Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et grâce à moi, eh bien, je peux retrouver le chemin du Père. » Je suis le chemin qui mène au Père, dit Jésus. Je suis celui qui nous relie au Père, dit Jésus. Et au bout du chemin, effectivement, il y a le Père. Ailleurs, dans les évangiles, il nous dit que la porte est étroite, celle qui est à l'entrée du chemin. Mais cette porte, elle est ouverte. Et j'aurais illustré ce choix aussi par un tableau que j'avais utilisé il y a longtemps dans une prédication. Je trouve que c'est un tableau de mes tableaux préférés de Van Gogh, l'église d'Auvers-sur-Oise. Et j'aime bien ce tableau qui était dans l'introduction parce qu'il illustre bien le choix que nous avons à faire. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène à l'entrée de l'église. Et il y a un chemin qui mène, qui fait passer derrière l'église. Quel est notre choix, justement, ce matin? Et je trouve que tout ce que je dis est contenu dans ce tableau. Nous avons ce choix à faire. Est-ce que nous passons dans la lumière? J'ai l'impression que derrière, c'est plutôt de l'ombre, alors que le chemin qui mène à la porte d'église, symbolisant justement la rencontre avec Dieu, eh bien, est dans la lumière. Et cette femme là, qui avance sur le chemin, elle a choisi. Et effectivement, il n'y a que deux chemins, hein, une alternative. Et le texte nous présente aussi de cette façon la vie, la mort, les bénédictions, les malédictions, le bonheur, le malheur. Alors on peut trouver que l'alternative est violente, il n'y a que deux chemins. Il n'y a pas un troisième ou... Non, il y a deux chemins. Est-ce que c'est vrai que la marge de négociation, en somme toute, assez faible? Et le passage nous dit, là, dans... je crois que c'est verset 16, verset 15, pardon. « Regarde. J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Regarde, vois, notre traduction. Choisis. » Et ça, c'est moi qui le rajoute. « Prends conscience, sois conscient que tu peux être aimé de Dieu et que tu peux aimer Dieu. Mais tu as un choix à faire, choisis la vie. » Et parfois, nous n'avons pas forcément la lucidité pour regarder ce qui se passe, d'avoir le recul nécessaire pour choisir, de voir qu'il y a effectivement deux chemins et de choisir le bon chemin qui nous permet de choisir la vie. Et dans ce manque de conscience, ça me fait penser à un épisode dans Genèse 21, où on retrouve Agar, qui était la servante d'Abraham, qui a un fils avec Abraham, Ismaël, et puis à un moment donné, Abraham chasse Agar dans le désert. Et donc elle avance avec Ismaël dans le désert, et au verset, pardon, voilà, verset 17 à 19, Genèse 21, je lis le passage. Dieu entendit le garçon, le messager de Dieu appela, Dieu entendit le garçon, le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon, Ismaël, là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Vous voyez, Agar était dans le désert, elle avait soif. Et elle n'était pas capable de voir le puits. Et parfois, nous manquons de cette conscience-là, de voir le puits, de voir où est la source d'eau vive, de voir où est le bon chemin. Et c'est vrai au moment de la conversion, d'avoir cette lucidité pour voir le bon chemin, hein, choisir mon engagement. Mais aussi, c'est vrai dans tous les choix que j'ai à faire du quotidien. Est-ce que je choisis la vie? Est-ce que je choisis le bon chemin? Et Dieu dit à Agar, n'aie pas peur. Et la peur joue un rôle essentiel. Et la Bible nous donne plusieurs exemples où des hommes et des femmes ont fait de mauvais choix par peur. Et si les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert, c'est parce qu'ils ont fait justement ce mauvais choix par la peur. Vous vous souvenez, Moïse envoie 12 espions, ils sont dans le désert pour aller visiter, espionner le pays de Canaan. Les 12 reviennent, 10 ont peur, en disant « non, on n'y va pas, il y a des géants ». Les deux disent, Caleb et Josué disent, non, nous, on a envie d'y aller. Et finalement, les 10 qui ne veulent pas y aller influencent le peuple pour que, eh bien, ils choisissent de ne pas y aller. Et Dieu, de colère, leur dit, puisque c'est comme ça, cette génération restera dans le désert et ne connaîtra pas la terre promise. Et seuls Josué et Caleb iront dans la terre promise. Vous voyez, le choix, de mauvais choix, par peur. Et c'est vrai que parfois le chemin, il y a des géants sur le chemin que Dieu nous demande d'emprunter. Il y a des géants. Et on peut avoir peur. Sauf que c'est celui qui nous demande de choisir. Et il nous demande justement d'être obéissant. Et ces exemples nous montrent, eh bien, les exemples des espions, que choisir la vie, c'est choisir l'obéissance. Même, encore une fois, si ça peut faire peur. Et pour lui obéir, pour m'engager, j'ai besoin de lui faire confiance. Mais si je sais qu'il m'aime, si je sais qu'il prend soin de moi, eh bien, qu'est-ce qu'il peut m'arriver au fond, même si ça fait peur. En conclusion, autre histoire qui m'est arrivée un petit peu plus longtemps que cette semaine. J'étais à l'aéroport de Lyon, parce que je fréquente les aéroports. Je allais prendre un avion transcontinental, j'allais à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Et si vous n'êtes jamais allé à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, je vous le conseille. Bref, je rencontre mon ami d'adolescence. Voilà. Je ne l'avais pas vu depuis 18 ans Et quand j'étais ado, je faisais tout avec lui, et là, un trou, et paf, je le revois 18 ans après. Ça fait bizarre comme sensation. Et assez frustrant, parce que notre avion était dans 10 minutes après, et puis 18 ans de... voilà, c'est une chose à se dire. Et en quelques minutes, il me dit, ben voilà, j'ai 3 enfants, divorcés, en ce moment, je suis en procès avec mon ex-femme, etc. Okay. Enfin bref, sa vie avait l'air compliquée. Et je ne suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit, je sais bien que parfois on a des vies familiales compliquées, hein, et certains d'entre nous, c'est le cas, et on ne maîtrise pas tout, bien évidemment. Mais quand j'étais ado, avec cet ami, donc, je suis allé avec des camps chrétiens et on lisait la Bible ensemble. Et c'est intéressant de voir les parcours, sans me prendre pour un exemple, mais je voyais que sa vie était compliquée. En tout cas, toujours est-il qu'il s'était éloigné de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est quels que soient mes choix passés, eh bien, la bonne nouvelle est que le chemin est toujours ouvert. Quels que soient les choix, les décisions que j'ai à faire, le chemin est toujours ouvert. Et je ne veux pas le remontrer, mais ce que je trouve aussi intéressant avec le tableau de Van Gogh, c'est qu'en haut de l'église, il y a une pendule, et sur cette pendule, il n'y a pas d'aiguille. Et vous regarderez à l'occasion, si ça vous amuse, si je puis dire. Et je trouve que c'est un bon symbole pour dire, voilà, le choix que je fais, eh bien, je peux le faire à n'importe quel moment. Voilà. Mais j'ai quand même un choix à faire, et à un moment donné, il faut que je m'engage, pardon. Et je termine par un verset dans Romains 6, 2 versets 22-23. « Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors ma prière ce matin, eh bien, est que le Seigneur nous donne la lucidité, la sagesse pour choisir le bon chemin, pour choisir la vie, c'est-à-dire aller faire les choix qui nous rapprochent de Dieu. Amen.
Merci Arnaud. Je vous invite à prendre un chant dans la continuité un peu du message d'Arnaud sur ce choix. Un chant qu'on chante souvent dans des camps de jeunes, d'ados, autour du feu, quand justement on nous